Bonjour frères et sœurs, bienvenue à la fête de la Pentecôte, cette fête qui nous révèle tant de vérités cruciales à propos de pourquoi Dieu nous a créés et quel est son plan pour nous et ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, à cette époque. Vous savez, depuis le temps du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les hommes coupés de Dieu se demandent pourquoi ils sont ici-bas. Et ils ont cherché toutes sortes d'idées pour donner un sens à leur vie. Les religions de leur propre création, des philosophies de leur propre imagination, des politiques en tout genre. Ils essaient le matérialisme, l'art, le plaisir, les plaisirs divers. Mais on ne peut pas comprendre les pourquoi de cette existence, la structure et le but de toute matière, de la création, à moins d'observer la fête de la Pentecôte et les autres fêtes de l'Éternel. Dieu a un plan. Il a eu depuis le début un plan. Et tout suit son cours pour l'accomplissement de son plan. Ce sont les fêtes de l'Éternel, les fêtes annuelles, qui nous permettent de comprendre quel est son plan et quel est le rôle que nous pouvons y jouer. Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, dans Job, chapitre 38. Job, chapitre 38. Vers la fin de ce livre qui raconte l'histoire de Job, cet grand homme devant Dieu, un homme d'une justice étonnante quand nous lisons ce que Dieu a dit à son sujet. Vers la fin du livre, après avoir lu les plaintes de Job pendant plusieurs pages, eh bien l'Éternel lui répond et lui explique comment il doit comprendre ce qui lui arrive dans la vie. Job chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Eh bien, ce que Job a fait là, il a obscurci les desseins de Dieu par ses plaintes. Il a réduit Dieu à notre niveau, le niveau d'un être humain. Il a obscurci les desseins de Dieu. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que Dieu a des desseins. Il fait tout à dessein. Tout le plan de Dieu a été conçu avec un but ultime en tête. Et le plan de Dieu suit son cours exactement comme Dieu l'avait prévu depuis le début. Nous pouvons comprendre les desseins de Dieu et de l'univers. Et pour nous, parce que Dieu nous révèle ses desseins, en large partie à travers les fêtes de l'Éternel dont nous célébrons une aujourd'hui. Revenons au début de l'histoire de l'humanité dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Après avoir créé le reste de ce qu'il avait mis sur la terre et dans l'univers, rendu de l'ordre à l'univers et la création terrestre que nous connaissons aujourd'hui, Dieu dit au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu a donné à l'homme un esprit qui nous rend différents de toutes ses autres créatures. Nous avons un esprit et c'est cela qui nous fait ressembler à Dieu. C'est ça qui fait que nous sommes à son image. Ce n'est pas le simple fait d'avoir deux bras, deux jambes, deux oreilles, etc. Il n'est pas question uniquement de la forme corporelle, puisqu'on pourrait prendre des grands singes qui ont plus ou moins la même structure que nous. Mais ce qui nous différencie des autres, les animaux, j'allais dire les autres animaux, nous ne sommes pas des animaux comme eux en sont, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes capables de comprendre, de raisonner, d'avoir une relation spirituelle avec notre Créateur. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu que les animaux ne peuvent pas avoir. Cela nous dote d'une potentialité fantastique à cause de cet élément spirituel que Dieu met dans les êtres humains. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Nous voyons plusieurs choses vraiment très importantes ici. Tout d'abord, nous ne pourrions pas comprendre les choses que les êtres humains comprennent si nous n'avions pas l'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit dans l'homme, nous l'appelons très fréquemment. Et c'est cet élément spirituel que Dieu a ajouté aux êtres humains, que nous avons les capacités spirituelles et mentales de pouvoir ressembler à Dieu, de pouvoir imaginer, planifier pour l'avenir, de pouvoir faire des choix moraux, de décider entre le bien et le mal, de comprendre la différence même entre le bien et le mal. Nous avons l'esprit dans l'homme. C'est cet élément spirituel qui explique l'énorme différence entre les capacités des êtres humains et des capacités d'animaux qui ont des cerveaux plus ou moins semblables. Le cerveau d'un dauphin est très similaire au cerveau d'un homme. Et pourtant, le rendement, on va dire, ne peut pas être comparé, incomparable. Deuxièmement, nous voyons qu'il nous faut un deuxième esprit, l'esprit de Dieu, si nous voulons comprendre les choses de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons comprendre des vérités spirituelles qui sont fermées à ceux qui n'ont pas cet esprit de l'Éternel. Mais nous ne pourrions même pas comprendre les choses des êtres humains si nous n'avions pas l'esprit dans l'homme. Et c'est à cause de cet esprit, à cause des capacités qui nous sont données par cet esprit dans l'homme de pouvoir, comme j'ai dit, distinguer entre le bien et le mal et choisir sciemment le bien et rejeter sciemment le mal, même si le mal semble parfois la voie plus facile à prendre. Hébreux chapitre 2 maintenant, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 5, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ce passage que nous venons de lire ici dans Hébreux chapitre 2 parle de notre avenir, de notre avenir. Le verset 8 signifie beaucoup plus pour nous aujourd'hui que à l'époque où ces mots étaient écrits, parce que nous comprenons beaucoup plus l'étendue de l'univers, l'étendue de la création de Dieu. Et le verset 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » En effet, en lui remettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant, que toutes choses lui soient soumises. Non, c'est pour l'avenir. C'est pour un futur que nous ne pouvons qu'à peine imaginer. Mais avec toutes les découvertes de la science aujourd'hui, nous comprenons mieux l'étendue de la création de Dieu, les merveilles qui existent. À l'époque, on ne pouvait les contempler qu'à l'œil nu. Maintenant, vous et moi, nous avons vu des photos incroyables des merveilles de l'univers. Nous comprenons beaucoup mieux ce que cela veut dire. La taille immense de tout ce que Dieu a créé. Et toute cette création, tout ce que Dieu a été créé dans un but, pour un but, le grand dessein de Dieu. Le grand dessein de Dieu qui est expliqué en grande partie, étape par les fêtes de l'Éternel expliquées en Lévitique chapitre 23. Et ces fêtes de l'Éternel tournent autour des récoltes dans la Terre Sainte. Dieu se sert des récoltes qu'il a mis en place, tout ce système qu'il a mis en place en Terre Sainte, il se sert de ces récoltes pour symboliser son désir d'amener les hommes à la vie éternelle dans sa famille comme véritable fils de Dieu, avec tout ce que cela comprend. Romains chapitre 8, revenons quelques pages en arrière, Romains chapitre 8, où il est question du destin de l'humanité. Romains chapitre 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est le destin de l'humanité, de devenir fils, enfant de Dieu, héritier du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de destin plus grandiose que cela, d'entrer dans la famille de Dieu et d'hériter tout ce qui appartient à Dieu. Verset 18. Le verset 17 a dit que nous devons être disposés à souffrir avec lui, comme il a fait, si nous voulons être glorifiés avec lui. Et Paul poursuit. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance aussi qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création n'est pas terminée. Quand nous regardons ce que nous pouvons distinguer dans l'espace, nous ne voyons pas d'autres planètes dotées de vie. C'est comme la création n'a pas complètement été terminée. Et ici, sur Terre, nous voyons les résultats du péché d'Adam et Ève aussi. Cette création souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Si on peut avoir l'espoir de recevoir quelque chose et qu'on ne l'a pas encore reçu, sinon ce ne serait pas de l'espoir. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Un jour, au retour de Jésus-Christ, nous deviendrons des fils immortels de Dieu. C'est le but du grand plan magistral, le dessein de l'Éternel. C'est la culmination du processus de salut que Dieu a mis en marche. Le dessein magistral de l'Éternel est vraiment époustouflant. Et au moment quand Dieu a dit que la lumière soit, tout ce projet, tout ce dessein était déjà formé dans son esprit. Tout était déjà planifié, tout était déjà prévu. Et tout procède comme Dieu l'a prévu et comme il le prévoit encore aujourd'hui. Notre grand Dieu, dans sa perfection et son pouvoir, il maîtrise tout. Et il fait progresser les choses, il fait progresser son plan, étape par étape, exactement comme il avait prévu au début. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nous sommes destinés à devenir petits frères de Jésus-Christ, exister au même niveau de vie que lui-même. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons qu'à peine imaginer maintenant. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous dit. Mais posons-nous la question ici, qu'est-ce qui veut dire ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça crée des problèmes dans la compréhension de beaucoup d'églises chrétiennes, entre guillemets, aujourd'hui. Il y a certaines églises qui prétendent très fortement que la prédestination veut dire que Dieu a déjà décidé à l'avance si on est sauvé ou pas. qu'au moment où on vient au monde, c'est déjà écrit quelque part, celui-là sera sauvé, celui ou celle-là ne le sera pas. Hein, c'est la croyance de plusieurs églises protestantes. Et ces gens-là croient que tout est arrêté à l'avance. Tout est déjà décidé avant notre naissance. Dieu sait si nous réussirons ou pas. Mais ce n'est pas ça, bibliquement, la prédestination. La prédestination concerne le moment ou l'époque de notre appel, et non pas si nous serons appelés ou sauvés. Tout le monde aura l'occasion d'être appelé par Dieu et de recevoir le salut que Dieu offre en don gratuit. Mais pourquoi nous faut-il un appel? Pourquoi est-ce qu'il faut être appelé avant de pouvoir marcher avec Dieu? Eh bien, nous connaissons bien les premiers quelques chapitres dans la Bible. Après le péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Le contact fut rompu et leurs enfants ont vécu coupés de Dieu, à part quelques exceptions. Les rares individus avec qui Dieu a choisi devraient. Et en fait, la Bible, c'est l'histoire de ces rares individus. Depuis 6000 ans, il n'y a qu'une poignée comparée au contexte de l'humanité dans son ensemble. Les milliards de personnes qui ont vécu, il y a une petite poignée qui ont été appelées par Dieu. C'est l'histoire que nous avons dans la Bible. Et ça ne concerne pas beaucoup quand on calcule, quand on imagine l'étendue de la race humaine. Regardons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Adam et Ève ont été chassés du jardin et leurs enfants, petit à petit, ont perdu la connaissance de Dieu. Nous voyons que Dieu travaillait encore avec Cain et Abel, discutait avec eux apparemment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et finalement, leurs enfants et leurs petits-enfants, etc., ont perdu la connaissance de Dieu. Ils ont perdu le contact. Sauf les quelques rares individus qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Là, nous lisons, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Il séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan a réussi à séduire l'humanité dans son ensemble. L'humanité dans son ensemble est coupée de Dieu. La séduction, par définition, ça veut dire qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Si on est séduit, par définition, on l'ignore. On ne sait pas qu'on est séduit. Sinon, on ne serait pas séduit. Donc l'humanité croit comprendre ce qui se passe, croient comprendre le monde dans lequel ils vivent, mais ils ignorent, dans leur ensemble, les êtres humains, ignorent le plan de Dieu, le dessein de Dieu dont Dieu a parlé avec Job. C'est pour cela, cette séduction que Jésus a dit plusieurs fois dans les évangiles, je vais prendre Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi, Jésus a dit. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que n'importe qui ne pouvait aller entendre, suivre Jésus, comprendre ce qu'il expliquait? Personne ne peut venir, ne pouvait à l'époque et ne peut encore aujourd'hui venir à Christ à moins que le Père ne les attire à cause de cette séduction. Ailleurs, il est question d'un voile qui tombe devant les yeux, un voile spirituel qui empêche les gens de comprendre le dessein de Dieu. Et il faut que Dieu le Père attire la personne vers son Fils, c'est-à-dire il faut qu'il retire ce voile, qu'il soulève le voile pour permettre la compréhension spirituelle nécessaire afin de pouvoir venir à Jésus-Christ. Mais Dieu n'a pas permis cela pour perdre les gens. Il n'a pas permis cette séduction de Satan afin de perdre définitivement les êtres humains. Il le permet pendant un temps, et le plan de salut de Dieu révélé par les fêtes nous montre que c'est temporaire. Un jour, chaque être humain aura l'occasion de connaître Dieu, mais Dieu a décidé de travailler par étapes. Il travaille avec certaines personnes maintenant, il a travaillé avec une poignée de par le passé, et la vaste majorité des êtres humains auront leur occasion de connaître Dieu dans l'avenir. 1 Timothée chapitre 2 nous rappelle que Dieu ne veut perdre personne. Il veut sauver tous les êtres humains qui ont vu le jour, ses enfants en puissance, ceux qui ont la possibilité de développer une relation avec Dieu afin d'un jour de faire partie de sa famille. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, les requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, notons bien maintenant verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions développer son caractère, le caractère divin, nous devons être libres de choisir. Et ça veut dire qu'un certain nombre de personnes, nous espérons et nous croyons que ce sera un nombre très réduit, mais quelques personnes vont mal choisir et ils ne vont pas recevoir la vie éternelle que Dieu veut nous offrir. Mais la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est qu'il tout le monde puisse recevoir la vie que Dieu veut nous donner. Il veut cela pour tous. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes viendront, mais pas en même temps. La Bible nous montre que Dieu n'appelle pas tout le monde en même temps et que jusqu'à ce que ce soit notre moment, nous ne pouvons même pas venir à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas venir à Dieu. Dieu choisit le moment quand il va soulever le voile pour nous permettre de comprendre la vérité. 2 Timothée chapitre 6. Versets 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Maintenant, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et c'est ainsi que c'est traduit dans la plupart des versions de la Bible. Mais si on prend le temps de regarder le grec, nous voyons qu'il n'y a pas d'article défini ici. Il n'y a pas d'article défini. C'est le traducteur qui a décidé de le traduire comme cela. Mais en fait, mot à mot dans le grec, c'est plutôt dans un temps acceptable, dans un jour de salut. Voici maintenant un temps acceptable, maintenant un jour de salut. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul jour de salut. Il y en a, en fait, plusieurs. Il y en a plusieurs étapes par lesquelles ou pendant lesquelles Dieu travaille avec l'humanité. Dieu, dans sa parfaite sagesse, a prévu des étapes pour finalement amener tout le monde à lui. Et ces étapes sont nécessaires pour le bon déroulement de son plan afin de pouvoir sauver un maximum de gens. Et c'est ce que Dieu a prévu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces étapes sont représentées ou illustrées par les moissons en Terre Sainte, les différentes récoltes qu'il y avait pendant l'année. Revenons dans Lévitique chapitre 23 maintenant, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 23. Nous commencerons à lire au verset 4. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixe. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et ensuite, il continue avec les autres fêtes de l'Éternel, chacune dans son ordre. Puis nous arrivons au verset 9, où nous avons la description qui va nous mener finalement au jour que nous célébrons aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un 1/4 hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épi rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habitez. Donc, nous avons au verset 4 et 5 l'explication de la fête des pains sans levain. Et puis, nous avons une cérémonie qui devait avoir lieu pendant la fête des pains sans levain, le jour après le sabbat hebdomadaire qui tombe pendant la fête. Eh bien, on devait agiter une gerbe, l'offrir symboliquement devant Dieu. Et cela, ça devait être accepté par Dieu avant qu'on ne puisse commencer la récolte de l'orge. C'est l'orge qui était prêt à la récolte avant le blé. C'est donc une première, les prémices des récoltes qui allaient venir pendant l'année. Maintenant, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc, nous avons le lendemain du 7e sabbat. Ça nous montre que le sabbat en question est le sabbat hebdomadaire, et non pas, comme le croient certains, le premier jour de la fête des pains sans levain. C'est un sabbat également. Mais nous devons compter 7 semaines jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc, c'est de sabbat hebdomadaire à sabbat hebdomadaire. Ça ne peut être autrement. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuites avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce même jour, quel jour? De quel jour s'agit-il? Eh bien, le jour après le 7e sabbat. Ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Nous voici au lendemain du 7e sabbat. Depuis le sabbat qui est tombé pendant la fête des pains sans levain cette année. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans le passage, ce passage clé que nous venons de lire ici? Nous avons vu qu'il y a une gerbe qui doit être agitée avant que la première récolte ne puisse commencer. Et cette gerbe devait être offerte pendant la fête des pains sans levain. On pourrait considérer cette gerbe comme les prémices des prémices. Puisqu'on ne peut pas commencer la première récolte des prémices avant que la gerbe ne soit offerte à Dieu. Il fallait que cette gerbe soit offerte à Dieu avant de commencer la première moisson, la récolte de printemps, l'orge. Ensuite, nous voyons que pendant la fête de la Pentecôte, où nous sommes aujourd'hui, ce qu'on devait faire à cette époque-là, c'était offrir des pains de prémices. Des pains de prémices le jour de la Pentecôte. Une autre étape maintenant, les prémices de Dieu, la première récolte de Dieu. Ces pains sont cuits avec du levain, à la différence de la gerbe qui était sans levain. Mais ces pains sont cuits avec du levain, qui, nous l'avons vu pendant la fête des pains sans levain, symbolise le temps de cette fête, le péché. Nous sommes prémices de Dieu, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons encore des péchés. Mais Dieu nous considère néanmoins comme ses prémices, les prémices de l'Éternel. Ses pains nous représentent dans la mesure où nous faisons partie de l'Église de Dieu, que nous avons reçu le don du Saint-Esprit et que nous soumettons aux indications, au fait d'être guidés par cet Esprit. Et puis, plus tard, nous voyons dans la suite de ce chapitre, plus tard vient les fêtes de la récolte en automne. La fête de la récolte, la fête des tabernacles. Notons autre chose dans Exode chapitre 34. Exode 34. Verset 22. Exode chapitre 34, verset 22. Nous avons une autre appellation pour la fête que nous observons aujourd'hui. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc, il y a la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et puis, à la fin de l'année, il y a la fête de la récolte. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est la fête des prémices. La Pentecôte peut être appelée aussi la fête des prémices. Et puis il y a la fête de la récolte, la fête des tabernacles, en fin de l'année. Qu'est-ce qui est impliqué dans ces différentes étapes? Nous avons la gerbe, prémices des prémices. Nous avons les prémices. Et ensuite, plus tard dans l'année, il y a la récolte. La récolte vient bien plus tard. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cela? Eh bien, Jacques, chapitre 1, va nous aider à comprendre, à décortiquer le symbolisme de ces choses. Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques, chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. L'apôtre Jacques ici écrivait à l'Église de Dieu. L'Église, le corps de Christ, est composé des prémices. Les prémices sont les membres de l'Église du Nouveau Testament. Ça veut dire aujourd'hui, vous et moi et nos frères et sœurs de par le monde, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui se laissent guider par cet Esprit. Ceux qui sont obéissants à Dieu. Ceux que Dieu a appelés, ceux qui ont persévéré jusqu'à présent, et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin de leur vie, ou jusqu'au retour de Jésus-Christ, ce qui arrive en premier. Depuis le temps d'Adam et Ève, il y a toujours une poignée de personnes avec qui Dieu a travaillé. Et finalement, jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, Dieu va continuer de travailler avec un petit troupeau, des prémices. Nous sommes en quelque sorte les prémices de ces créatures, les premiers à être moissonnés, les premiers à être reçus dans la famille de Dieu. Regardons aussi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts et qui doivent être ressuscités, Jésus-Christ est les prémices, même des prémices. Puisque, encore une fois, l'apôtre Paul écrivait à l'Église de Dieu. Et il a dit, Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts étant serviteurs de Dieu. Jésus-Christ est donc les prémices des prémices. C'est la gerbe qui représente Jésus-Christ. Il fallait que Jésus soit offert par sa mort afin d'ouvrir la voie pour les récoltes. Là, la récolte peut commencer. Il fallait que la gerbe soit offerte avant que la récolte d'orge commence en Terre Sainte. Il fallait que Jésus-Christ soit offert par son sacrifice avant que Dieu puisse récolter des êtres humains. avant qu'il puisse nous récolter. Il a ouvert la voie pour le salut, pour la moisson de ses frères et sœurs. Verset 21, poursuivons. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Le Père ne sera pas soumis au Fils, c'est Dieu le Père qui sera toujours suprême, mais tout le reste de ce qui est écrit, tout le reste qui existe, est soumis à Jésus-Christ. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà le but magistral de Dieu. Afin que Dieu soit tout en tous. Quel merveilleux plan, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Le but glorieux du plan de salut de Dieu. C'est là où il veut en venir, depuis le début de son plan, afin que nous puissions faire partie de la famille divine, afin que nous puissions ressembler, être comme Jésus-Christ est. Ça, c'est le but de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a créés. Les pains offerts en prémisse représentent l'Église que Dieu prépare pour assister Jésus-Christ lors de son retour à étendre la connaissance de l'Éternel à toute la terre. Nous aurons le privilège de participer à la grande moisson de la vaste majorité des êtres humains qui ont jamais vécu. Quel privilège pour vous et pour moi. Petit, sans importance aujourd'hui, du moins aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, nous avons une certaine importance. Il a choisi de nous prédestiner à être appelés maintenant, en avance des autres, pour faire partie de ses prémices. Cela devrait être très encourageant pour nous, frères et sœurs. Nous avons vu aussi qu'il y a des souffrances. Dans cette vie, nous devons être disposés à souffrir avec Jésus-Christ, comme il a fait, pas aussi gravement qu'il l'a fait, mais souffrir avec lui si nous voulons être glorifiés avec lui. Il y a des passages difficiles dans cette vie par lesquels nous devons passer afin de pouvoir entrer dans la famille de Dieu au moment du retour de Jésus-Christ. Ça fait mal, mais Paul a dit qu'il n'y a pas de comparaison entre les difficultés de cette vie présente et ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. On peut imaginer un peu, c'est un peu comme si Dieu était notre médecin. Parfois, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, ça peut être un bras cassé ou une blessure qui nécessite une intervention, quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, le médecin va nous faire mal. Le médecin, peut-être que votre médecin vous a dit quelque chose comme « Je vais peut-être vous faire mal, mais je ne vais pas vous blesser. Je ne vais pas faire quelque chose qui soit mauvais pour vous. Si je vous fais du mal, finalement, c'est pour votre bien. On doit passer par ces maux passagers afin de pouvoir arriver à un meilleur état de santé après. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous passons par des moments difficiles. Nous passons par les souffrances dans cette vie. Mais c'est dans le but de pouvoir nous donner quelque chose de bien meilleur, incroyablement meilleur, dans l'avenir. C'est le but de Dieu. C'est comme ça qu'il fait avec nous. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Je vis des trônes, j'en vois en vision, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Frères et sœurs, nous avons cette bénédiction. Dieu nous offre cette bénédiction. Nous avons la bénédiction de la part de Dieu de faire partie des premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons le privilège de vivre 1000 ans, le millénium, comme membres de la famille divine et non pas comme des êtres humains sur la terre, mais comme fils immortel de Dieu. Par la grâce de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas parce que nous avons mérité d'être appelés en avance. Ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, plus spirituels, plus pieux. Non. En fait, la Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles, folles du monde, pour étonner ceux qui sont forts, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Ce n'est pas par notre grandeur ou notre force que nous sommes appelés en premier. C'est bien le contraire. C'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est pas une raison de nous enorgueillir d'être appelés en premier. C'est une bénédiction qui devrait en fait nous humilier, nous rendre humbles quand nous comprenons la grandeur de ce que Dieu nous offre. Et cela devrait nous pousser à nous concentrer fortement sur notre appel. Hébreux chapitre 11 verset 35. Hébreux chapitre 11 verset 35. Dans la liste des hommes et les femmes de foi, les témoins de la foi du passé, nous lisons quelque chose à propos de la résurrection à laquelle nous sommes destinés par la grâce de Dieu. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'était leur but, d'arriver à la première résurrection. Frères et sœurs, encore une fois, nous avons le privilège de faire partie de ce nombre. Nous allons vers, si nous persévérons à la fin, une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Voilà ce à quoi Dieu nous a prédestinés. Et finalement, regardons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés à être appelés en ce moment, maintenant, en avance de la vaste majorité de l'humanité, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, non pas parce que nous l'avons mérité, selon son bon plaisir, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous avons espéré en Christ d'avance parce que Dieu nous a appelés en avance, parce qu'il nous a prédestinés d'avoir notre chance de salut, notre occasion de salut maintenant. Et pour le reste de l'humanité, la vaste majorité des êtres humains sur la terre, ce sera dans l'avenir. Mais quelle bénédiction étonnante, quel privilège que de pouvoir faire partie des prémices, ceux qui sont appelés d'abord. ceux qui ont d'abord cru en Christ. Cela devrait nous pousser, frères et sœurs, à être très reconnaissants envers Dieu, notre Père, et envers Jésus-Christ, notre frère aîné, qui ont rendu et qui rendent encore possible cet avenir époustouflant. Cela devrait aussi nous stimuler encore plus à vouloir accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre et d'hâter le retour de Jésus-Christ. Remercions Dieu de cette bénédiction et mettons tous nos efforts à servir et à plaire à notre Père céleste qui nous donne tant.